Merci d'écouter RFI. Il est 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
L'actualité africaine et votre journal Vincent Dublanche qui débute dans le centre nord du Mali.
Une localité a négocié avec les djihadistes pour lever un blocus qui durait depuis près de 2 ans. Fait rare, les autorités maliennes semblent avoir donné leur feu vert à cet accord. Explication à suivre et article détaillé déjà en ligne. Au Sénégal, la loi d'interprétation de l'amnistie a été votée hier. RFI met en débat cette loi dans Appel sur l'actualité dans une demi-heure. On évoque dans ce journal cette audience en référé hier à Abidjan dans une procédure qui pourrait menacé Tidiane Thiam au PDCI RDA, on va vous expliquer. La Côte d'Ivoire où la chef Zainab Bansé retente le record du marathon culinaire. Elle a servi plus de 10 000 plats hier, on était avec les supporters. Le journal des sports dans 10 minutes, l'ASEC Mimo d'Abidjan qui s'incline en quart de finale. Allée de la Coupe de la Confédération au Félicia pourtant, 0-1 contre Berkane. Mais d'abord donc le Mali, les djihadistes qui ont levé le blocus imposé depuis près de 2 ans à la ville de Boni. Boni, c'est dans la région de Douenza, donc dans le centre-nord du Mali. Le JNIM, allié à Al-Qaïda, a mis fin à cet embargo qui frappait Boni donc depuis quasiment 2 ans, mais aussi l'axe routier qui reliait Boni à la fois à Douenza et aussi à Gao, plus au nord. Un accord local a donc été conclu en ce sens. C'était samedi dernier, les négociations ont été longues à la manœuvre des notabilités locales, la médiation également de l'association intercommunautaire Happy IDEC, mais aussi, je vous le disais en titre, l'implication, semble-t-il, de l'État malien. Les explications de David Bachet avec Abdoulaye Diko de la rédaction en full day de RFI.
La ville de Boni peut à nouveau être approvisionnée et les véhicules peuvent emprunter la RN16 qui relie Douenza, Boni puis Gao. Plus d'un an de discussions auront été nécessaires. Cet accord doit permettre aux populations de circuler librement et de ne plus subir les violences de la Katiba Serma du JNIM liée à Al-Qaïda, ni les exactions de l'armée et de ses supplétifs de Wagner. Car si les habitants de Boni acceptent de se plier aux règles des djihadistes, application de la charia, port du voile, etc., l'État malien a lui-même fait des concessions de taille. Selon plusieurs sources proches des négociations, y compris sécuritaires maliennes, la sécurité d'État et l'armée ont été associées au processus et accepté de réduire la présence militaire dans la zone. Il n'y a pas le choix, l'État ne parvient pas à sécuriser les habitants, reconnaît une source sécuritaire malienne, non sans amertume. Plusieurs centaines de villages au Mali ont des accords locaux avec les djihadistes, mais une telle implication de l'État n'est pas habituelle. L'ancien Premier ministre Moussa Mara félicite les autorités de la transition qui ont donné leur feu vert à ce dialogue. Le parti ADEMA félicite les médiateurs civils comme militaires, ainsi que les autorités de la transition qui ont permis de libérer Boni de façon pacifique.
Au Mali, toujours plus au nord, le préfet Dansongo a été enlevé hier dans la matinée par des hommes armés, information transmise et confirmée à RFI par plusieurs sources locales. Ahmed Aklini avait quitté Ansongo pour Gao lorsque son véhicule a été intercepté par les assaillants qui ont tiré sur la voiture, libéré le chauffeur et sont repartis donc avec le préfet dans Ansongo. Pas de revendication à ce stade. La zone est dominée par l'État islamique au Sahel, mais le groupe djihadiste rival, le JNIM, est également présent. Au Sénégal, cette loi d'interprétation de l'amnistie dont on a beaucoup parlé, elle a été adoptée hier, 126 voix pour, 20 contre, adoptée à l'issue d'une journée marathon. Les débats ont été tendus à l'Assemblée nationale. L'opposition parle d'une loi scélérate qui ne servirait qu'à juger les forces de l'ordre. La majorité défend un pas dans la lutte contre l'impunité. Pour rappel, ce texte revient donc sur l'amnistie de l'année dernière pour les crimes commis lors des manifestations anti-régime de 2021 à 2024. Écoutez la réaction ce matin d'Aminata. Elle est militante du parti au pouvoir depuis 1 an, le PASTEF, venue de France assister au débat à l'Assemblée nationale. Pour elle, la priorité, c'est de juger les crimes, quels qu'en soient les auteurs.
Il n'y avait pas que les forces de l'ordre, justement. Il y avait des nervis, il y avait des personnes qui étaient en tenue civile, qui étaient avec les forces de l'ordre. Donc aujourd'hui, vouloir dire que c'est seulement les forces de l'ordre et que vous pointez du doigt les forces de l'ordre, je pense que c'est justement ça qui va diviser le pays aujourd'hui. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas diviser le pays aujourd'hui. On veut que justice soit faite tout simplement. Quel que soit le bord, résoudre cette fracture, justement, c'est ce qu'on est en train de faire. Mieux comprendre le pourquoi du comment et voter cette loi et que justice soit faite. Une fois que justice soit faite, après les gens sont capables de pardonner. Mais tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de pardon qui est possible.
Des propos recueillis par Léa-Lisa Vesteroff et c'est le débat d'appel sur l'actualité dans une quarantaine de minutes sur Radio France Internationale. En Guinée, l'indignation qui persiste après la libération, la grâce présidentielle de Moussa Dadis Camara, L'ex-président condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité, gracié donc vendredi pour raison de santé après les inquiétudes affichées notamment par l'Union européenne, par de multiples organisations de défense des droits humains. C'est l'ONU qui exprime ses préoccupations. Écoutez Saif Magongo, porte-parole du Bureau des droits humains des Nations Unies.
Nous étions dans la procédure des recours puisque Moussa Dadis Camara a fait appel de sa condamnation à 20 ans de prison. Si les autorités de transition avaient un minimum de respect pour la procédure judiciaire, elles auraient au moins pu attendre que le procès en appel aboutisse avant de faire quoi que ce soit. Donc il y a vraiment un problème dans la forme, dans la manière même dont on lui a accordé cette grâce présidentielle, alors que la procédure initiale était encore en cours. Les victimes et les familles des victimes tuées et violées au stade de Conakry ont attendu qu'on leur rende justice pendant plus de 16 ans. Que cette grâce soit accordée à Dadis juste maintenant, alors qu'on commençait à constater des efforts pour l'application de la justice et la lutte contre l'impunité, c'est très, très décevant. C'est pour ça que nous demandons que cette grâce soit abandonnée, afin de laisser aboutir la procédure en appel.
Propos recueillis par Sidi Hansané. La Libye suspend les activités de 10 organisations humanitaires non gouvernementales, notamment le Conseil norvégien pour les réfugiés ou encore Médecins sans frontières. Elles sont accusées de trafic de migrants, de blanchiment d'argent et de vouloir, je cite, installer des migrants d'Afrique subsaharienne en Libye. Elle en est à son 4e jour de grève de la faim. Sona Darmani en Libye, en Tunisie, pardon. Son comité de défense dénonce le fait qu'elle n'aurait plus accès à l'eau potable depuis 10 jours. L'avocate avait été arrêtée en direct devant les caméras de France 24 et condamnée à 2 ans de prison pour avoir critiqué la politique du président Kais Saied. 2200 francs CFA, c'est le nouveau prix du kilo de cacao Borchan en Côte d'Ivoire, annoncé hier par le ministère de l'Agriculture. C'est 400 francs de plus par rapport à la campagne principale. Qu'attendre justement de cette petite récolte entre guillemets du cacao? Notre chronique des matières premières y était consacrée hier. Elle est à lire ou à relire sur RFI.fr. La Côte d'Ivoire où le PDCI RDA, le parti de Tidiane Thiam, fait face à des remous politico-judiciaires. Hier, les avocats du parti étaient au tribunal des référés à Abidjan. Pourquoi? Parce qu'une militante du PDCI RDA conteste la légitimité de Tidiane Thiam pour être président de cette formation politique. RFI Abidjan, Binta Diagne.
Il est midi, plusieurs dizaines de personnes marchent pacifiquement près du palais de justice. En tête de cortège, des députés du PDCI, écharpe orange, blanc, vert en bandoulière, tentent d'entrer dans le tribunal. Mais ils se heurtent à un cordon des forces de police. Simon Doho dirige le groupe parlementaire du PDCI.
C'est un combat pour la démocratie. Nous ne pouvons pas accepter que des gens utilisent des artifices pour manipuler nos militants à des fins d'empêcher notre président d'accéder à la présidence de la République de Côte d'Ivoire.
Tout est parti d'une assignation devant la justice portée par Valérie Yapo, une militante du PDCI. Cette sympathisante remet notamment en question la légitimité de Tidiane Thiam à la tête du parti. Le président du PDCI a été élu à près de 96% lors d'un congrès en décembre 2023. Il a tout récemment renoncé à la nationalité française pour être éligible à la présidentielle d'octobre. Mais ses détracteurs estime qu'il n'est plus ivoirien en vertu de l'article 48 du Code de la nationalité qui stipule qu'un ivoirien majeur perd la nationalité ivoirienne s'il acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Fin de citation. Après une audience à huis clos, Valérie Yapo n'a pas souhaité dévoiler le fond du dossier.
Ça s'est déroulé dans un climat simple, il n'y a pas d'animosité. La juge a simplement ramené l'affaire au 11 avril pour décision.
D'ici là, le PDCI maintient ses activités avec samedi l'organisation d'un bureau politique à Yamoussoukro. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
En Côte d'Ivoire, toujours la chef Zainab Bansé n'a pas renoncé, elle veut battre le record du plus long marathon de cuisine, elle est peut-être en train d'y parvenir. Sa première tentative, rappelez-vous, a été invalidée par le Guinness World Records en raison d'un problème de captation vidéo. Elle a donc remis le tablier, elle a franchi hier soir la barre des 145 heures de cuisine. De quoi lui permettre, en principe, de relever le défi. Abdelaziz Diallo, ce challenge a attiré de nombreux supporters.
Sur l'esplanade du palais des sports de Trècheville, des centaines de jeunes se pressent devant une baie vitrée. Le regard rivé sur la chef Zainab Bansé, qui après plus de 145 heures au fourneau, enchaîne encore les plats. Avec seulement 5 minutes de pause par heure travaillée, elle a déjà servi plus de 10 000 assiettes. Un exploit qui force l'admiration, comme le témoigne cette jeune pâtissière venue la soutenir.
Ça m'inspire beaucoup. Je vois en elle une femme très battante. Elle appelle la jeunesse à se battre, à relever les défis au fait dans tous les domaines.
Pour ses supporters, Zainab Bansé est devenue une fierté nationale. Beaucoup sont convaincus qu'elle ira au bout.
bout.
Je suis fier de voir la population ivoirienne soutenir une sœur dans quelque chose. Défaite n'est pas ivoirien, donc obligé à réussir.
Malgré l'invalidation de sa première tentative, après 131 heures de cuisine, Zeynab n'a pas baissé les bras. Cette fois, l'organisation a tout mis en œuvre pour éviter une nouvelle déconvenue, explique Amichia Daniel, membre du staff.
Nous avons appris de nos erreurs, nous avons confié la captation à des personnes bien précises et nous avons mis des générateurs pour que la captation ne soit à aucun moment interrompue. Afin que cette fois-ci, le record soit validé.
Si Zeynab Bansé a déjà dépassé les 119 heures du précédent record mondial, il faudra attendre la fin du marathon et la vérification des juges du Guinness World Records pour officialiser son exploit. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
On suivra tout ça bien sûr sur Radio France Internationale. Un mot de cette visite à Moscou, aujourd'hui et demain des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, les chefs de la diplomatie du Faso, du Mali et du Niger qui viennent parler sécurité, un domaine dans lequel la Russie compte bien affermir son soutien. Les questions économiques seront aussi sur la table. Selon nos informations, les trois pays de l'AES viennent notamment demander un coup de pouce pour lancer leur banque régionale d'investissement qui patine pour l'instant. Autre visite au ton très économique, mais pas que. Voyage du tout nouveau conseiller Afrique du président Trump, Massad Boulos, homme d'affaires américain né au Liban, installé au Nigeria et beau-père de la fille de Donald Trump. Il est arrivé hier soir à Kinshasa en RDC, il ira ensuite au Rwanda, au Kenya et en Ouganda et il est accompagné pour l'occasion de la secrétaire d'État adjointe chargée de l'Afrique, Corina Sanders. La crise dans l'Est de la République démocratique du Congo et sera bien sûr au cœur de ces discussions que l'on suivra sur Radio France Internationale. Et c'était vous savez tout, Marion Cazanov.
Pardon, merci beaucoup, c'était le journal de Vincent Dublanche.
Bonne journée.
Bonne journée.